Radio Kapi.
Le gouvernement devrait présenter un budget qui priorise l'amélioration de la situation sociale de la population congolaise, notamment la relance de l'agriculture. C'est le souhait des représentants du peuple, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Ils l'ont fait savoir ce 15 septembre à la rentrée parlementaire. 4 à 5 000 enfants sont atteints de cancer chaque année en RDC avec un taux élevé de mortalité dû au diagnostic tardif. C'est ce qu'affirme le docteur Hassani Karim, médecin spécialiste du service d'oncologie pédiatrique des cliniques universitaires de Kinshasa. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, dresse la situation sécuritaire dans cette province qui, selon lui, connaît une accalmie. Toutefois, il attribue certains cas d'insécurité aux groupes armés qui se battent pour le contrôle des sites miniers. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. L'amélioration de la situation sociale de la population congolaise est au cœur des préoccupations des parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. À l'issue de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre dans les deux chambres, députés et sénateurs ont insisté sur la nécessité pour le gouvernement de présenter un budget qui priorise notamment la relance de l'agriculture. La société civile parlementaire salue l'intention du Parlement et l'invite à voter un budget équitable susceptible à créer de l'emploi et à réduire les inégalités sociales entre les gouvernants et les gouvernés. Michel Kifindangoy.
Saluons les discours des présidents des deux chambres du Parlement. Le directeur du bureau de liaison avec le Parlement de la CENCO invite les députés et sénateurs à voter un budget qui respecte une meilleure redistribution des richesses entre les dirigeants politiques et le reste de la population. Jean-Paul Moulianga.
Espérons que cette fois-ci, les moyens conséquents seront consacrés à l'amélioration des conditions de vie des Congolais et le financement de l'agriculture.
Pour le président de la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, le budget 2023 devra prioriser notamment la versification de l'économie afin de lutter contre la pauvreté de la population. Léon Mondolé.
Outre la question de l'agriculture, une grande priorité devra être réservé à la question de la couverture santé universelle.
Pour le président du groupe des députés de 26 provinces, la matérialisation de l'amélioration du social des Congolais passe en priorité par la maximisation des recettes budgétaires. Gracien Irachan.
On doit faire tout ce qui est possible pour que quand même les budgets puissent aller vers les niveaux sociaux.
Les députés Gracien Irachan invitent par ailleurs le gouvernement à procéder au nettoyage des fichiers de l'administration publique afin de bien réévaluer les salaires de tous les fonctionnaires.
Alors, juste après l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre, le gouvernement a déposé le projet de loi de finances exercice 2023 conformément aux articles 126 de la Constitution et 83 de la loi relative aux finances publiques. Le projet du budget 2023 déposé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé au président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso présente un budget de 14,6 milliards de dollars américains. À en croire le Premier ministre, plus de 10 milliards de dollars proviendront des ressources propres, soit une augmentation des prêts de 50% par rapport au budget 2022. Jean-Michel Samalou Kondé est au micro de Michel Kifindangoy.
En ce qui concerne le budget que nous venons déposer, je voulais juste donner quelques éléments. C'est d'abord les indications qui nous avaient été données clairement, communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, d'avoir un budget pro-social pour la République. Jusque-là, nous sommes sans cesse en accroissement du budget. Cette fois-ci, nous déposons un budget qui atteint 29 520 millions de francs congolais, ce qui serait peut-être un équivalent de 14,6 milliards de dollars, une augmentation de 32%. Alors, en ce qui concerne les domaines prioritaires, vous savez que nous sommes dans un programme ambitieux de développement à la base pour une juste redistribution des richesses dans chaque territoire. Nous allons maintenir le cap du point de vue des investissements qui doivent être faits. Aujourd'hui, le contexte mondial, surtout avec la guerre russo-ukrainienne, nous a démontré que nous avons besoin d'augmenter, d'accroître notre propre production locale et de diversifier notre économie. Au-delà de ça, de permettre au fait qu'il y ait des échanges de toute cette richesse au niveau agricole que nous avons. Donc là aussi est une priorité des priorités.
Pendant ces temps, les femmes du Nord Kivu, regroupées au sein des associations qui militent pour la promotion et la protection des droits de la femme, ont saisi l'occasion de la rentrée parlementaire pour faire entendre leur voix, notamment en rapport avec ce qu'elles qualifient de silence notoire des institutions de la République sur la libération de Bunagana et ses environs, occupés depuis plus de 3 mois maintenant par la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda. En sit-in devant le palais du peuple, ces femmes ont déclaré qu'il n'y aura jamais de paix en RDC sans Bunagana et ses environs. Elles exigent aussi que les soldats qui se battent au front soient appuyés convenablement sur le plan logistique et financier. Alors, au Nord Kivu sur place, les quelques habitants et retournés des groupements de Djomba et Bweza en territoire de Rutshuru éprouvent actuellement des difficultés dans leurs échanges commerciaux. Selon un député provincial élu de Rutshuru, seules 3 monnaies étrangères facilitent les échanges dans cette région sous occupation de la rébellion du M23. Le shilling ougandais, le franc rwandais et le dollar américain au détriment du franc congolais qui n'est pas d'usage. Il affirme que pour ne fût-ce que se payer du pain, les populations utilisent la devise étrangère. Cet élu parle d'une catastrophe économique. Il alerte le chef de l'État pour prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour libérer les entités conquises par ces rebelles et restaurer l'autorité de l'État. On écoute le député Ngarouye Mouzi Emmanuel.
Nous sommes inquiets par non seulement le traitement inhumain qu'inflige ce mouvement rebelle à notre population. Tous les signaux démontrent que cette partie est amputée de la République parce que la monnaie utilisée, c'est la monnaie des pays agresseurs. Et aujourd'hui, si vous allez dans les Jomba, dans la partie de Bweza conquise, dans les Kisigari, la partie conquise, à Busanza, si vous avez des francs congolais, vous ne pouvez rien acheter. C'est la monnaie étrangère qui y travaille et la monnaie congolaise n'est plus d'application. C'est une inquiétude grave. Sur le plan économique, tout a été arrêté. C'est vraiment un problème très sérieux. Ma recommandation au chef de l'État, c'est de faire tout en urgence pour libérer les entités occupées par ces terroristes.
Et puis début ce mercredi à Beni d'une série des journées portes ouvertes sur le fonctionnement et la gouvernance sécuritaire des communes de la ville. Pour cette première journée, l'activité a réuni les autorités de la commune de Moulekera ainsi que les représentants des différentes couches sociales de cette municipalité. Une activité organisée par l'ONG Paul Institute dans le cadre du projet Dialogue démocratique pour la paix à Beni. Un reportage de Grace Amzati.
Les questions sécuritaires et de développement ont été abordées lors de cet échange sans tabou. Objectif, permettre à la population de comprendre le fonctionnement de leur commune pour le rapprochement, le renforcement de la collaboration entre les administrés et les autorités, a fait savoir Maître Charmant Ndambi Wandambi, chef du projet Paul Institute. Un moment salué par le commissaire supérieur principal Ngongo Mayanda Didoné, bourgmestre de la commune de Moulekera, qui estime qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités pour l'amélioration de la sécurité.
C'était l'occasion pour nous, en tant qu'autorité, d'expliquer à la population ce que nous faisons au juste et surtout sur les problèmes de sécurité. La population, je suppose, avec cette rencontre, doit changer la manière de se comporter par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser dans notre commune. À nous de pouvoir tenir compte des suggestions et des remarques qui nous ont été données, de pouvoir améliorer notre gouvernance.
De leur côté, les participants réitèrent leur rapport pour que tous les objectifs soient atteints.
De notre côté, tant que communauté, il est très important que nous puissions comprendre que la commune Moulekera, elle demande plus de nous que celle que nous attendons de nos autorités.
Pour qu'elle fasse mieux, il faut que l'autorité communique d'abord avec la population, parce que c'est la population qui est vraiment à la base de tout.
Après la commune de Moulekera, cette même activité sera organisée dans les 3 autres communes de la ville de Beni.
Autre nouvelle à Ouvira au Sud Kivu, l'adjoint du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en charge de la protection et des opérations, est arrivé mercredi à Ouvira. Hier jeudi, Kassim Diagne a échangé successivement avec le maire de la ville, le commandant du secteur opérationnel Soukola 2, Sud-Sud. La délégation onusienne a rencontré aussi les autorités civilo-militaires de Baraka Fizi. Au menu de ces échanges, les questions de l'heure relatives notamment à la restauration de la confiance avec les populations et l'accompagnement des autorités dans la restauration de la paix dans la région. Fiston Goma.
Le représentant spécial adjoint Kassim Diagne a exprimé ses remerciements aux autorités par rapport à leur engagement pendant la période des crises, ce qui a permis de ramener le calme dans la région. Les autorités politico-administratives, militaires et policières ont de leur côté réitéré leur engagement quant à la collaboration. Kassim Diagne a déclaré que la MONUSCO est disposée à accompagner le gouvernement congolais dans la sécurisation pour renforcer la protection des civils. Il a souligné que la communication sera davantage renforcée pour que la population soit informée par rapport à ses attentes.
Je repars entièrement satisfait quant à la disponibilité, quant à l'engagement, quant à la continuité et vraiment le niveau d'engagement des autorités, aussi bien les autorités civiles, politiques, que les autorités militaires que je viens de rencontrer de suite. Le grand défi que nous avons, c'est un défi conjoint avec les autorités, c'est le déficit de communication, je crois, qu'il nous faudra combler et essayer de répondre de façon un peu plus précise et claire par rapport aux attentes de la population.
Le maire de la ville, Kiza Mouato, a témoigné de son côté la compassion de la MONUSCO aux familles endeuillées à qui une enveloppe a été remise pour le funérailles. Du côté de l'armée, le commandant de secteur opérationnel Sokola 2 du Sud-Sud, le général de brigade Ramazan Ifundi, a souligné à travers son porte-parole qu'en dehors des opérations conjointes avec les forces burundaises, la collaboration avec la MONUSCO reste de mise.
Et puis après Goma, Vital Kamerhe est arrivé hier jeudi dans le sud Kivu à le port de Kaliba à Katana. C'est dans le territoire de Kabare, à une trentaine de kilomètres de Bukavu. Vital Kamerhe s'est adressé à la population locale avant de rejoindre Bukavu où un meeting a également été tenu à la place de l'indépendance. Bukavu est la première étape d'une tournée qui doit conduire l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État dans plusieurs territoires du sud Kivu. Plus de détails avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Il est presque 14 heures quand le bateau transportant Vital Kamerhe et sa délégation accoste à Katana. Sur le quai, plusieurs autorités et leaders locaux, c'est notamment le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Marc Malago, Zachary Luamira, le président de l'Assemblée provinciale, et Norbert Bashengezi Kontintima, gouverneur honoraire du Sud Kivu. Plusieurs députés nationaux et provinciaux ont fait aussi le déplacement, ainsi que des milliers de sympathisants de l'UNC. Ensuite, Vital Kamerhe et toute sa délégation sont allés dans le centre de Katana, où l'ex-directeur de cabinet du président Tshisekedi s'est adressé brièvement à une foule compacte. Remerciements à la population et des appels à la paix et à l'unité sont l'essentiel de son message. De Katana Centre, Vital Kamerhe a marché avec son épouse à ses côtés peu avant d'atteindre le stadium de Kavumu, puis d'aller à Miti. Pendant ce temps, à Bukavu, des milliers de sympathisants ont déjà envahi la place de l'indépendance où un meeting populaire est prévu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Justement, Vital Kamerhe s'est adressé à la population de Bukavu. La paix est un droit et non une faveur. Je ne suis pas venu faire la politique, mais concilier mes frères de l'Est qui ont longtemps souffert par la guerre, a-t-il notamment déclaré. Autre nouvelle, la Cour de cassation a ordonné la mise en liberté provisoire du pasteur Daniel Ngoy Mulunda, arrêté depuis près de 20 mois à la prison de la Kasapa à Lubumbashi. Il était poursuivi et condamné pour incitation à la haine tribale, propagation de faux bruits et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. D'après la justice, ses propos étaient tenus le 16 janvier 2021 devant les fidèles de la nouvelle église méthodiste de Lubumbashi, dont il est le fondateur. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, 4 à 5 000 enfants sont atteints de cancer chaque année en RDC. Malheureusement, le taux de mortalité reste très élevé à la suite des diagnostics tardifs. C'est ce qu'affirme le docteur Hassani Karim, médecin spécialiste du service d'oncologie pédiatrique des cliniques universitaires de Kinshasa au cours de la célébration de la journée de l'enfant atteint de cancer. Selon lui, moins de 30% des enfants survivent et pourtant, le cancer de l'enfant est guérissable à plus de 80% dans le monde. Le mois de septembre, dénommé « Septembre en or », a été choisi pour sensibiliser la communauté sur cette pathologie. Aux cliniques universitaires de Kinshasa, les parents dont les enfants souffrent du cancer ont été sensibilisés autour d'un repas et des jeux pour les enfants. Docteur Hassani Karim explique dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
L'un des éléments importants de cette journée, c'est de sensibiliser sur 5 éléments. Le premier élément, c'est que le cancer de l'enfant existe et c'est une réalité chez nous en RDC. Le deuxième élément, c'est que le cancer de l'enfant est guérissable, même ici chez nous en RDC. Le troisième élément, le coût de prise en charge est relativement faible par rapport au cancer de l'adulte. Mais malheureusement pour la plupart de nos malades, qui déjà viennent dans une situation de précarité, ce coût qui est relativement moindre est toujours très élevé pour eux. Le quatrième élément, c'est que les cancers de l'enfant nécessitent une prise en charge que nous appelons pluridisciplinaire. Et le dernier élément, c'est de rappeler à tout le monde que les cancers de l'enfant possèdent des signes du début de la maladie pour lesquels chaque parent devrait savoir. Si vous regardez votre enfant dans les yeux, vous voyez qu'il y a une tache blanche, ou bien que l'œil dévie de son axe, il faut aller rapidement voir un ophtalmologiste parce que ça peut être un cancer de l'enfant. On appelle d'ailleurs le rétinoblastome. Si en donnant un bain à votre enfant, vous touchez dans son ventre et vous trouvez qu'il y a une boule à l'intérieur, soyez-en sûr que c'est quelque chose de sérieux, qu'il faut prendre en charge rapidement.
Autre nouvelle, à Kinshasa, la salle de spectacle de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA a accueilli hier jeudi 15 septembre la table ronde des jeunes femmes universitaires. Cette activité a été placée sous le thème « Inspirer la femme pour l'équité, l'autonomisation et la valorisation de ses talents ». À l'initiative du Club des œuvres caritatives, en collaboration avec la Fondation Bâtisseuse et la Coordination Estudiantine de l'ISTA, cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser les étudiants sur les enjeux de la révolution, du changement de mentalité et sur leur autonomisation. Kelly Yoka était là pour Radio Okapi. Suivez son reportage.
C'est sous une note patriotique qu'a débuté cette table ronde qui a réuni des femmes parmi lesquelles des étudiantes, des élèves et autres défenseurs des droits des femmes. Cette activité a mis en valeur l'intelligence au féminin. L'une des panélistes et femme pilote a salué cette initiative en exhortant les autres femmes à aller de l'avant.
La raison de mes satisfactions, c'est que ces filles ont la même capacité, on dit en anglais mindset, ils ont le même mindset que moi. Ça veut dire plus rien ne va nous arrêter, nous avons démarré.
Pour sa part, le président de l'ONG Club des œuvres caritatives, COC, Blaise Pascal Chitoka, a expliqué le sens de ces tables rondes.
Déjà, nous sommes jeunes. Et moi, dans mon ASBL, on a des objectifs, parmi lesquels soutenir la femme. On a trouvé que les études des ingénieurs sont des études à prioriser. Et à l'ISTA, la plupart des femmes n'ont pas encore compris. Il faudrait qu'on puisse les encadrer d'une façon ou d'une autre, enfin, qu'elles puissent prendre conscience du rôle qu'elles doivent jouer.
Notons que trois panels ont composé ces tables rondes où les femmes issues de plusieurs facultés de l'ISTA ont partagé leurs connaissances avec la jeune génération.
Actualité internationale.
Les importantes inondations qui ont frappé la Centrafrique en juillet et août dernier continuent de peser sur les sinistrés. Pour leur venir en aide, la Croix-Rouge centrafricaine a organisé des distributions de kits et de matériel. Les autorités estiment que 4 à 5 000 foyers ont été touchés par les inondations à Bangui, soit entre 20 000 à 25 000 personnes.
L'invité.
Nous l'avons dit, nous recevons dans cette édition du journal le lieutenant-général Johnny Lubuya Kachama. Il dresse la situation sécuritaire dans cette province qui, selon lui, connaît une accalmie. Il attribue certains cas d'insécurité aux groupes armés qui se battent pour le contrôle des sites miniers. Le gouverneur de l'Ituri lance un appel aux miliciens qui ont adhéré au processus régional et national de cesser les violences en attendant le programme de désarmement et de démobilisation et réinsertion communautaire des DRCS. Le lieutenant-général Johnny Lubuya Kachama s'entretient ici avec Isaac Remo Yopé. Suivez.
Général Johnny Lubuya Kachama, bonjour.
Bonjour.
De nombreuses voix s'élèvent ces derniers temps pour dénoncer la détérioration de la situation sécuritaire avec la progression de certains groupes armés vers la ville de Bounia, la multiplication des exactions des milices, notamment Mbidjo et aux alentours de Biakato, avec plus de 60 morts. D'abord, que les répondez-vous et surtout, que fait le gouvernement pour réduire ces violences?
Vous parlez de détérioration de la situation sécuritaire. Nous sommes arrivés ici, on a commencé à tuer les gens dans les villages. On tuait les gens dans les sites de déplacés. Aujourd'hui, cela s'est arrêté. Vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, on va tuer les gens dans les villages? Vous pouvez me dire aujourd'hui que vous les tueries qui se passaient avant, ça se passe encore aujourd'hui? Maintenant, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que aujourd'hui, les groupes armés vont se bagarrer autour des carrés miniers. On a eu autant de dialogues ici. Maintenant, ils sont en train de se disputer les carrés miniers. Alors, moi, je ne sais pas de quelle sécurité vous parlez. Aujourd'hui, on parle des environs de la ville de Bounia. C'est vrai, on peut avoir un dérapage, c'est vrai. Il y a des éléments de groupe Zaïre qui entrent dans la périphérie de la ville. Là. Vous ne suivez pas quand j'arrête les éléments de groupe Zaïre vers Riga Barrière et les environs. Là. Vous ne suivez pas quand on arrête le Codeco vers Ezekiel là-bas. Depuis un certain temps, nous sommes en train de vivre la calme. Depuis que vous êtes ici à Bougne, ça fait 15 mois, 16 mois. Vous avez eu l'insécurité comme on en avait avant ici. Les gens dansent jusqu'aux petites heures du matin. Vous pensez que quelqu'un peut venir s'amuser dans cette ville ici? Mais vous rêvez qu'il commence, que quelqu'un vienne ici, il va voir comment est-ce que nous allons réagir.
Certains observateurs indiquent que les positions des FARDC sont dégarnées dans plusieurs localités et que les opérations militaires sont suspendues dans des régions insécurisées. La société civile parle même de léthargie de l'armée qui justifierait, selon elle, l'activisme des groupes armés. Vous en dites quoi?
Vous avez appris ici qu'on a le dialogue entre les communautés et même les groupes armés. Vous avez appris qu'il y a Nairobi. Vous avez appris qu'on prépare Nairobi 2. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu toute une grande délégation qui est arrivée ici pour préparer Nairobi 2. Vous voulez que moi je commence à désobéir aux ordres maintenant? Les positions qui ont été dégarnées. Je dis qu'à un certain moment, vous devez avoir honte de tout le temps mentir, de tout le temps faire des contre-vérités.
À ces jours, 3 groupes armés locaux ont signé l'acte d'engagement unilatéral pour la cessation des hostilités, FRPI, FPIC et CODECO. Quelles sont les mesures d'encadrement de ces processus pour éviter les regains de violence et pourquoi le gouvernement tarde-t-il à lancer le programme des DDRCS?
C'est vrai, on attend les fonds de PDDRCS. C'est vrai, on attend ces fonds-là. Mais alors, nous disons quoi? Nous disons, voilà, on nous a promis de l'argent. Nos enfants ici, pour qu'ils arrêtent de tuer, de voler, il faut qu'on nous donne de l'argent. Mais à un certain moment, il faut se gêner. Pourquoi est-ce que les jeunes ne peuvent pas rentrer à leurs activités d'antan? Ces gens-là qui sont en train de poser ce genre de questions doivent se gêner. Nous avons la terre ici. Nous avons les fermes ici. Nous avons le lac ici. Au lieu que les gens disent, rentrez dans vos activités. Vous êtes jeunes, vous êtes forts, allez travailler. S'il y a PDDRCS qui arrive, bon, PDDRCS va vous trouver dans votre travail et on va aider la communauté. Vous vous dites non, chers enfants, restez, continuez à tuer. Si les blancs ne nous envoient pas l'argent, tuez toujours, continuez à tuer. Ça, c'est quelle logique ça? Et les gens le répètent à longueur de journée. Moi, je ne suis pas pour cette logique-là. Moi. Les gens doivent apprendre à travailler et les gens doivent rentrer dans leurs activités et pas dire des histoires. C'est vrai, PDDRCS va arriver, c'est vrai que l'argent va arriver, mais l'argent n'est pas là. Alors vous allez continuer à tuer parce que l'argent n'est pas là. Vous tuez vos soeurs, vous violez vos soeurs et puis vous dites non, si le PDDRCS n'envoie pas l'argent, nous allons continuer à tuer, à violer nos soeurs. C'est quoi ça?
Certains habitants recommandent au gouvernement provincial de débloquer un montant pour le regroupement de ces miliciens et leur prise en charge en attendant les débits effectifs des DDRCS comme ce fut le cas avec la FRPI. C'est là pour éviter que ces miliciens ne vivent sur les dos de la population. Votre réaction?
Ces jeunes-là, ils ont leur village. Ces jeunes-là, ils ont leur champ. Et nous ne manquons pas de terre ici. Qu'ils rentrent travailler. C'est tout. Qu'ils rentrent travailler. S'il y a de l'argent, oui, on va amener l'argent là-bas. Vous ne pouvez pas aujourd'hui commencer à soutenir tous ces gens-là qui sont en train de faire du désordre au motif qu'ils n'ont pas encore eu l'argent du gouvernement ou quoi.
Pour conclure, le général Johnny Luboya Kachama, quel est votre bilan de l'état des sièges? Et s'il fallait les refaire, les référiez-vous? Si oui, dans les mêmes conditions ou différemment?
Le bilan de l'état des sièges, vous allez voir le jour où je vais partir. Parce que, comme les gens sont habitués, n'est-ce pas, tout le temps à dire ce qu'ils veulent là. Vous allez voir le bilan. Après, quand je serai parti, vous verrez le bilan. Parce que je ne peux pas parler pour moi-même. Chaque fois, je donne le bilan, non, il a menti, non, il a dit non. Attendez que je parte, vous verrez le bilan.
Général Johnny Luboya Kachama, je vous remercie.
Voilà, complètement terminé cette édition du journal, mise en onde par Alain Goy, coordonnée et supervisée par Pelé Kipelamondo. Merci pour votre particulière attention.